Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, les Orech Yamim Tovim Veshanim Naimim. Nous poursuivons notre lecture et notre étude du Sidour de Tfila. Nous sommes à présent aux 5 Alléluia. Donc nous avons lu Ashré, et maintenant nous allons passer aux 5 derniers Alléluia, les 5 derniers psaumes du livre de Tehilim. Il compose avec le Ashré, le Hallel, que nous récitons, le Hallel, le petit Hallel, que nous récitons tous les jours dans notre tfila. Alors pourquoi 5 Alléluia? La Neshama est composée de 5 parties, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. Ils correspondent aux 5 fois qui sont marquées dans le Tehilim, Bachri, Nafshi et Adonai. David Ameler dit à 5 reprises, comme c'est mentionné dans la Gemara, dans le Midrash, 5 reprises, Bachri Nafshi, que mon âme loue l'Éternel. Alors l'âme, pourquoi David répète cela à 5 reprises? Parce que l'âme est composée de 5 éléments, que nous appelons Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Veyahida. Le Nefesh, c'est l'âme primaire, l'âme bestiale. Puis vient le Ruach, c'est la force de la parole. L'âme bestiale se réside essentiellement dans le foie, qui a d'âme ou un Nefesh. Le nefesh se traduit par le sang. C'est le foie qui est kuloda, qu'on ne peut pas cachériser avec du sel, il faut le griller, parce qu'il est entièrement du sang. Puis vient le ruach qui se situe au niveau du cœur, qui est l'expression de la parole, la possibilité de parler, ce qui définit essentiellement l'homme. L'homme essentiellement est sans ruach. Puis vient un niveau supérieur qui est la Neshama. La Neshama se situe pour une part dans le cerveau. Elle est pas entièrement dans le cerveau. Elle est installée comme une fiche qui vient s'installer dans le cerveau, mais en partie. C'est pour cette raison que nous ne pouvons utiliser tout notre cerveau, puisque la Neshama n'entre pas entièrement dans le cerveau. Parce qu'essentiellement, elle est d'un niveau spirituel, elle est au niveau de la Bina. Donc elle vient ouvrir ses ailes pour préserver l'homme. Et elle envoie des flux de sorte que le Ruach ait la force de monter le Nefesh à son niveau. Et tout le travail de l'homme, nous disent les maîtres, se situe à ce niveau-là. Faire en sorte que le Nefesh arrive à se purifier, le Nefesh qui est attaché à la matérialité du corps, arrive à se raffiner, se purifier, à travers son détachement de la matérialité, la maîtrise de la matérialité, des besoins matériels, des désirs du corps, arrive à se raffiner, à se purifier, à réparer les défauts de la personnalité, ce qu'on appelle les midot. Et c'est éliminer de soi l'orgueil, la suffisance, l'égoïsme, etc., toutes les mauvaises midot, de sorte que le corps, que le nefesh puisse à son tour monter d'un cran et se lier de manière parfaite avec le ruach. Ça peut être fait, l'influence du ruach sur le nefesh peut être effectuée grâce à l'influence de la neshama qui est au-dessus. Puis au-dessus de la Neshama, il y a la Haya et la Yahida qui sont deux énergies enveloppantes, une qui enveloppe uniquement la tête et une qui enveloppe la globalité du corps. Alors le premier psaume, alors c'est ce que dit le verset, « Ko la Neshama te Halleluya, Halleluya ». C'est le dernier verset des psaumes que toute l'âme doit louer l'Éternel. Alors, si le sens du verset est de dire que toutes les âmes louent Dieu, ou que chaque âme loue Dieu, il aurait fallu dire « Kol Neshamot » ou bien « Kol Neshama ». Qu'est-ce que signifie « Kol HaNeshama » ? Tout celui qui a... Il y a un article défini avant le mot « Neshama ». Dans le livre « Olam Katan », Rabbi Menachem Azaria Difano, Alav Shalom, explique à partir de ces versets, la dimension de l'âme sur les 4 premiers niveaux. Le cinquième étant celui d'Adam Arishon, avant la faute, ou celui que Moshe va atteindre au moment du don de la Torah. L'homme qui l'atteindrait serait au niveau des anges, nous dit le Rav. Le premier psaume est au niveau du Nefesh. À ce niveau, l'homme ne comprend les choses et ne les appréhende qu'à travers ses propres expériences. Il n'a pas de conscience, il n'a conscience des choses que lorsque ça lui arrive. Les bonnes choses, comme les épreuves, il ne peut les appréhender qu'à part son expérience. Dans ce psaume, David retrace les difficultés de Yaakov, puis celles de Yosef. Il permet à chacun de comprendre sa propre histoire à travers celle qui est décrite pour atteindre la dimension de cette louange. C'est-à-dire que pour comprendre nous-mêmes, comment nous, on lit un psaume, mais le psaume a un sens. Il parle de Yaakov et ses difficultés, de Yosef et ses épreuves. Donc on peut se retrouver, nous, là-dedans. Chaque homme doit se retrouver à travers sa vie. Alors quand il a l'expérience de cela, il comprend les choses de par son expérience. Alors il arrive au niveau de cette louange. Le deuxième psaume, David décrit l'histoire du peuple et la finalité du rassemblement des exilés dans l'accomplissement et la réalisation du troisième temple. Ici, chacun n'a de place que dans l'ensemble du groupe. Ça veut dire que si on parle de la globalité d'Israël, où est ma place? L'essentiel de notre histoire commune mène au dévoilement de la gloire de Dieu dans l'enceinte de son temple. Le psalmiste a grandi. Il ne voit plus le monde comme un enfant, ce que nous appelons « mohin de katnout », c'est une vision réductrice qui pense lui-même être au centre de ce monde et l'être le plus important, tous sont à son service. Il a compris qu'il n'est qu'un maillon de la chaîne. David lui-même comprend qu'il est la couronne de gloire. C'est Mohin de Gadlout, il comprend qu'il a une destinée globale, que sa vie, que de par ses actions, il peut influer sur l'ensemble de la création et l'ensemble de l'Israël. Ce niveau du psaume, ce deuxième psaume est au niveau du rouar, de la compréhension et non plus de l'émotionnel. Le troisième psaume est au niveau de la neshama proprement dite, qui se situe au niveau de l'intellect et unit les deux premiers composants. C'est-à-dire que le premier psaume, il monte, il se lie au deuxième, il s'emboîte dans le deuxième, donc il monte à son niveau. Puis vient le deuxième et monte au niveau du troisième. L'union entre la destinée personnelle de l'individu et celle de l'histoire du monde le mène à une élévation telle que le psalmiste interpelle les anges des mondes du haut et les êtres des mondes du bas pour qu'ensemble ils entonnent la louange à la gloire du Seigneur Tout-Puissant. C'est le sens du psaume, de ce troisième psaume. L'homme a un niveau supérieur à celui des anges. Ceux-ci sont figés à l'échelon auquel ils ont été créés. Ils ne peuvent évoluer comme nous l'avons vu. L'homme transcende les mondes et peut atteindre les degrés les plus hauts. Ici, David s'adresse aux anges, puis aux êtres de ce bas monde. Ensemble, ils élèvent leur louange. C'est le début de l'harmonie parfaite qui va se faire. Le quatrième psaume est au niveau de la Haya. C'est une lumière enveloppante qui entoure chacune des trois précédentes de manière particulière. Dans ce psaume, David se réjouit de la chute des royaumes du mal, symbolisés par le pouvoir de Gog et Magog et leur disparition. Il chante sa joie de l'apparition bientôt du Mashiach. Le cinquième psaume est le niveau le plus élevé, celui de l'extase. Le psalmiste chante la plus grande louange par les cinq niveaux de son âme. Il mentionne 10 degrés de louange qui sont mentionnés dans ce psaume. Il relie les 10 sphirotes, de la plus haute, le Keter, à la plus basse, celle de la royauté. Tous les éléments de la création louent Hachem dans une harmonie parfaite. Ils ne prennent plus de place. Ils s'écartent pour laisser le lieu. On laisse la place. Makom, le Makom, à qui appartient-il? Qui est le Makom? Makom, c'est Akadosh Baruch Hu. Le roi du monde, c'est à lui la place. La seule et unique raison de l'existence de l'ensemble des êtres de ce monde, des plus élevés jusqu'aux plus insignifiants, c'est de faire la louange du maître de l'univers. Ils n'ont de vie que pour cela et que uniquement par cela. C'est le sens de l'enseignement de Rabbi Yossé. « Yéhelki, mi gomré alel becholyom. » Que ma part soit que je fasse partie de ceux qui disent le Hallel tous les jours. Beaucoup ont voulu réparer l'humanité de ses défauts et apporter aux hommes le salut. Cela est impossible. La réparation du monde et celle de l'homme et ne passe que par celle que l'homme fait sur lui-même uniquement. L'homme étant un microcosme, quand il s'élève, quand il répare les midotes, quand il s'arrange, quand il évolue, alors sache qu'il entraîne avec lui l'ensemble, l'immensité de la création vers sa réparation. Et ça, c'est le sens profond du tikkun de l'homme. L'homme, quand il répare le monde. L'homme est un microcosme et l'effet de son action rejaillit dans les moindres recoins de la création. Alors nous passons au premier psaume. Alléluia! Alléluia, c'est haranguer les gens pour qu'eux aussi ils ouvrent. C'est un appel. Alors on répond en cœur. Il y en a un qui dit Alléluia et les autres répondent Alléluia! Alléluia, nafshi et Adonai, que mon âme, nafshi, l'âme bestiale, loue célèbre le Seigneur. Célèbre Kadosh Baruch Hu. Tant que mon âme est en moi, alors je loue le Seigneur. C'est Jonas qui monte sur le navire pour traverser la mer. Et Jonas, le Zohar nous dit, c'est qui Jonas? Jonas, c'est la Neshama, qui pénètre dans le corps, c'est le bateau. Et l'Olamazé, c'est quoi? C'est la mer qui est tumultueuse, c'est la vie temporelle, l'espace de ce monde. Quand Jonas s'endort, le capitaine du bateau l'appelle alors, dit, « Koum, Kera el Elohecha, réveille-toi, implore ton Dieu. » La louange donne de l'énergie à l'âme du haut, celle qui est appelée le moi, Ani. Le Ani, mon Ani, c'est la parcelle de Dieu que j'ai en moi. Le Nefesh est la partie de l'âme attachée au corps. Dès qu'elle se réveille et entend sa louange, elle reçoit une vie nouvelle, des forces nouvelles qui viennent innover, qui se régénèrent. C'est pourquoi il répète en disant « Hallelai Adonai Behayai » « Je veux célébrer l'Éternel ma vie durant. » « Azamera l'Elohai Behodi » « Tant que j'existe, tant que je vis, alors je chante à l'Éternel. » Le corps lui aussi dira des louanges après sa résurrection. C'est pour cela qu'il dit « Pour mon âme, le mot Hallel, et pour mon corps, le mot Zimra, le chant. » Ne placez pas votre espérance, votre confiance dans les grands donateurs, dans les gens qui peuvent vous faire. On espère que X va m'aider, que Y va m'aider. Dans les fils de l'homme, ils sont impuissants à secourir. Les hommes, on espère, il est riche, il peut m'aider, mais lui-même, il est pas capable de s'aider lui-même. Même le plus riche des riches, le plus puissant des puissants, il a besoin d'Akadosh Baruch Hu pour exister lui-même. Donc qu'est-ce que il n'a pas suffisamment lui-même d'énergie et de force pour subvenir lui-même à ce qu'il a besoin? Si Akadosh Baruch Hu lui retire le chef à une ne serait-ce qu'un instant, alors pourquoi toi tu vas lui donner ton espoir? Ne mets pas ta confiance sur les actions, sur les actions. Ne dis pas comme Ishmaël, je suis le fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi j'ai mon père, il est un tzaddik. Ishmaël dit, Abraham va venir me sauver. Ne dis pas comme Esav, mon frère Yaakov, il est tzaddik, mon frère, il va me sauver. Ne compte que sur tes propres actions, sur tes mitzvot, sur la Torah que tu étudies. Souvent, et ça c'est une maladie répandue, une erreur fatale, les hommes donnent leur propre énergie à ceux dont ils espèrent le salut. Ils espèrent, comment c'est possible qu'il y a des gens qui sont pas tellement chachamim, etc. Il y a un public énorme autour d'eux, et on dit d'eux qu'ils font des choses, ils arrivent à sauver. Ce sont les gens qui leur octroient leurs propres énergies. Rabbi Shimon dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, quiconque place sa confiance en Hachem aura le mérite de lui ressembler, comme il est dit, Baruch Agever Asher Iftah Badonai. Béni soit l'homme qui ait confiance en Dieu. Il est son espoir, comme s'il devenait cet homme l'espoir de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il met son espoir en lui, puisque lui-même, l'homme, il espère en lui. Tetzer Ruchou Yashuv Le'Admato. celui-là à qui j'ai donné, j'ai espéré de lui. Lui, on lui retire son souffle et il retourne à la poussière. Le jour même, ses projets, tous ses projets, les plans qu'il a faits, ils sont anéantis. Quand le souffle généreux qu'Akadosh Baruch Hu octroie à l'homme le quitte, il redevient poussière. Alors ne place pas ta confiance et tes ambitions dans les générosités des plaisirs de ce monde. Dès que le souffle est retiré, en un instant, on prend conscience de la futilité de tout cela. Tout ce qu'on a voulu espérer, la richesse, le plaisir, etc., etc., tout ça, on prend conscience que si on va pas bien, en un instant, on dit tout ça, c'est des bêtises, c'est de la futilité. Heureux qui a pour appui le Dieu de Jacob et met son espoir en Hachem. Hachem, l'éternel sans Dieu. Il prend Jacob comme référence. Quel exemple Jacob nous donne de sa confiance, sa fidélité indéfectible en Hachem. Ses luttes, ses combats, c'est ceux de chacun, c'est notre vie. Jacob est le père de chacun d'entre nous. Notre vie se retrouve dans son histoire. Pourquoi Jacob et pas les autres pères? Parce que quand il quitte la maison de son père, Jacob le fait seul, il ne possède rien. Comme il est dit, j'ai traversé le Jourdain uniquement avec mon bâton. Il n'avait rien. Jacob est celui qui se construit seul, sans capital. Il ne compte pas sur les richesses que l'héritage de son père. Il n'a que lui-même. La seule chose, toute sa richesse, il la contient en lui-même. Ce sont ses actions, sa tzidkout, sa qualité de travailler les midot, d'étudier la Torah, de servir Hachem avec sincérité et ferveur. C'est la seule chose qu'il possède. On sait, Shamaim Vaharet, celui qui fait le ciel et la terre, et Tayam et Kol HaSharbam, la mer et tout ce qu'il contient, Hachomer Emet Le'olam, celui qui garde éternellement sa parole, il est fidèle à sa parole. Il a fait, est à lire au présent. À chaque instant, il y a un renouveau de la création. Et à chaque instant, le sort de chacun peut changer. Le mot Emet, Aleph, même Tav, fait allusion aux trois piliers qui soutiennent le monde. La justice, la vérité et l'harmonie. La paix. C'est les trois qualités. Aolam Omed, Agilmel, Dvarim, Aolam Omed. Le monde tient sur trois piliers. Le pilier de la bonté, le pilier de la rigueur, à la Torah, à la Avoda, et à la Gmilut Hasadim. Il mentionne le ciel, la terre et la mer pour ces trois piliers. La Torah ne se réalise entièrement que dans l'harmonie, dans le shalom, l'apaisement, les uns avec les autres. Cette qualité de vérité est celle de Yaakov qui fait l'harmonie entre la différence qu'il y a entre ces 12 enfants. Chacun est différent, chacun est particulier, mais il crée l'harmonie entre eux, la concorde entre eux. Ose mishpat la'ashokrim, notenehem la'arabim. Quand je vous fais valoir les opprimés, le droit des opprimés, et il donne le pain à tous ceux qui ont faim. Il m'attire à sourire, mais il libère ceux qui sont emprisonnés. Hachem rétablit le droit de ceux dont le travail n'est pas rémunéré comme il se doit, selon sa valeur ou en son temps. Les initiales des trois premiers mots du verset forment le Amal. Oh, c'est Mishpat la Ashokim. Al-Ain, même, la Met, c'est Amal. Signifie l'effort, le labeur. La vanne. Donc, Yaakov, il parle de lui-même, en vérité. C'est Yaakov. La vanne, il voulait renvoyer Yaakov les mains vides. Il changea son salaire 10 fois. Les dernières lettres forment le mot Maté. Maté, c'est le bâton avec lequel Yaakov s'est enrichi, par lequel il a frappé la vanne. Akadosh Baruch Hu, il a frappé la vanne par le bâton qu'il a donné. Il lui a montré des bâtons, comment il fallait faire pour que tous les troupeaux, ils vont avoir les tachetés, etc. Ce sera un Yaakov. Donc, Telehem l'arrivim. Il donne le pain à ceux qui ont faim. Les premières et dernières lettres font allusion à la manne. Noun, même et même. Et Noun, Lamed. Font allusion à la manne que les bénis Israël ont reçue dans le désert. Pour le Shabbat, ils recevaient une double part. C'est pour ça qu'il y a marqué la manne deux fois. De même, Yaakov récupéra son salaire en double. Sa part, sa propre part et celle de Laval. Il a pris même ce qui devait revenir à Laval. Parce que Laval ne voulait rien lui donner. Adonai m'attire à Surim, à Kadosh Baruch Hu, il libère les prisonniers. C'est Yosef qui disait, tout ce qui arriva à Yaakov, arriva à Yosef. Yosef est sauvé de la tentation, du harcèlement de la femme de Potiphar, grâce à l'aide de Dieu de Yaakov. Il se laisse tenter et vient la rejoindre le jour où elle se trouve seule. Mais soudain, il voit apparaître l'image de son père et il fuit. C'est pour cela qu'il est dit, heureux qui a pour appui le Dieu de Yaakov. Asherei she'el Yaakov be'ezro. Il a été préservé grâce à cela de la faute. Il n'est pas frustré de s'être préservé du péché. Comme il dit, il met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il n'est pas frustré. Nos maîtres disent, c'est difficile. Devant Dieu, la subsistance cachée. Mais on attache la dame qui crie à Tiam Souf. C'est difficile que du bon Dieu de donner à l'homme à manger comme l'ouverture de la mer. Alors, difficile est devant Dieu le fait que l'homme trouve son épouse. C'est cacher les ivogos qui crie à Tiam Souf. La mère a fui devant Israël pour s'ouvrir quand elle vit le cercueil de Yosef, qui a lui-même fui devant la femme de Potiphar. Yosef symbolise la mida du Yesod, le fondement, la pureté, la sainteté de son corps apporte à l'homme sa subsistance et son épouse. Celui qui faute par le membre, le symbole de l'alliance, réduit le conduit de l'abondance et des difficultés pour construire son foyer. Adonai poked ivrim. Pourquoi Ivrim, alors, à Kadosh Baruch Hu, il rend la vue à ceux qui sont aveugles. La faute est due à l'aveuglement. Le Yetzer Hara est appelé Sam Aleph Lamed. Sam est plus loin qu'elle. Celui qui est aveugle. Yosef est attiré par cette femme, qui était d'une très grande beauté. Et il l'a désirée. À ce propos, le texte rapporte que Yosef fut racheté par Potiphar, et qu'il devint le gouvernant de la maison de son maître. Ce qui les distinguait, c'est le pain que son maître consommait. Le mot pain fait allusion à son épouse. Il est dit de Yosef qu'il était beau, de taille et des beaux de vue. Rachid dit, quand il est venu, il s'est vu, le maître, parce que le Potiphar lui a tout confié, alors il s'écrit, il a commencé à soigner ses cheveux. Alors Kadosh Baruch Hu lui a dit, ton père il est en deuil et toi tu te soignes les cheveux. Alors je vais lancer un ours à tes trousses. C'est quoi l'ours? C'est la femme de Potiphar. De suite, il est dit, et la femme de Potiphar a levé son dévolu sur lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, la femme, tu dois la voir, cette femme-là, qui est une immense beauté, comme un ours. Parce qu'en vérité, c'est le Yetzer Hara, il veut te tuer, il veut te faire te détruire. À travers cette beauté-là, il y a une destruction. C'est comme si on donne à quelqu'un à boire un très beau champignon, mais qui est venimeux. A priori, si on regarde que l'apparence, il est très beau, magnifique, on a envie de le manger, mais il contient du poison. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime ceux les justes. Cette phrase désigne ceux qui sont courbés sous le joug des patrons malveillants, par exemple, et malfaisants, ou par les difficultés de la vie et les nombreuses épreuves. Même si un homme subit la méchanceté des autres, il doit se comporter avec droiture. Hachem aime les justes, c'est ça ce qui a marqué. Hachem, Jokef qui vous filme. Hachem, moi, c'est l'équipe. Si, mais c'est pas parce que tu es nirfaf, tu es soumis à quelqu'un de méchant que tu dois devenir comme lui. Hachem, Shomer et Gerim. Quand je vous veille sur les étrangers. Ceux qui ne sont pas acceptés par les autres. Il y a des gens qui sont exclus, des exclus, qui sont rejetés. Yatom ve'almana yodet. Il soutient la veuve et l'orphelin. Chacun peut se retrouver dans la situation de l'orphelin ou de la veuve qui se trouve sans soutien. Ils sont abandonnés à leur sort et nul ne se préoccupe d'eux. Vederer Shaim Yahavet, tandis que ce qu'il bouleverse la vie des pervers. Le pervers est celui qui détient le pouvoir et qui rend la vie impossible aux autres par son intransigeance. Hachem ne repousse aucun être. Il donne à chacun la possibilité de s'amender, de prendre conscience de ses actes, quand il se rend compte du mal qu'il fait. Imloch Adonai le'olam, Elohim tient les doigts d'or, Alléluia. Le Seigneur règne à tout jamais, sur Sion, d'âge en âge, de génération en génération. Alléluia. Dans la Shira, il est dit, le nom de Dieu avant le règne. Imloch Hachem le'olam, Alors qu'ici, le règne précède le nom. Le psalmiste n'a pas voulu placer le nom de Dieu à côté de celui des pervers. Il n'est pas nécessaire pour David d'assister à des miracles extraordinaires pour proclamer le nom de Dieu et son règne. Lors de la traversée de la mer Rouge, les béné Israël ont vu la puissance de Dieu. Et c'est seulement après qu'ils ont proclamé sa royauté. Mais David, il proclame la royauté de Dieu sans avoir besoin de la voir. Il n'a pas besoin de voir les prodiges parce qu'il comprend c'est de manière intellectuelle. Il comprend le fondement de la grandeur du nom de Dieu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.